Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère Agathe, chère Baptiste, chers amis, lors de la très sérieuse préparation au mariage que les fiancés ont suivi, quand il s'est agi de donner un critère pour les textes de cette célébration, je leur ai dit, choisissez à l'intérieur de la parole de Dieu des textes qui donnent une lumière pour votre couple, qui indiquent un chemin, et aussi qui disent à l'assemblée qui vous entourera le jour J ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous attendez de ce sacrement et de la vie matrimoniale et familiale qui suivra? C'est donc des textes qui ont été choisis avec soin, et c'est sur ces textes-là que j'aimerais méditer avec vous, sur certains parties, qui me paraît aussi donner pour tout un chacun un chemin. Tout d'abord, saint Paul, la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains, qui dit « Renouvelez votre manière de penser, ne vous modelez pas sur le monde présent. » Je trouve ça très lumineux, cette parole-là. Ne vous modelez pas sur le monde présent, c'est-à-dire ne vous modelez pas sur la manière habituelle de faire. On sait bien que ça veut dire quoi, le monde présent ? Ben, le monde présent, c'est le monde beaucoup qui est dans le contrôle, le monde qui est d'une manière ou d'une autre dans une affirmation de soi, de développement du pouvoir, amour de l'argent, etc. Et saint Paul, il nous dit, non, que ce ne soit pas ça le critère pour vous. Alors on peut se poser la question, quel critère il faut choisir pour renouveler sa façon de penser, si ce n'est pas sur le monde présent? Eh bien, je me dis, est-ce que, au fond, l'apôtre ne nous invite pas et ne vous invite pas, chers fiancés, à fonder votre manière de voir sur la confiance? Ne vous invite pas, au fond, à un lâcher-prise. Le lâcher-prise qui nous est donné de façon providentielle par les problèmes de circulation qu'une partie des invités ont connus, ceux qui ont dû traverser Toulon. Et je me suis dit, tiens, la parole de Dieu est une parole vivante, elle est lumineuse. Qu'est-ce qu'elle nous dit de cette situation concrète que nous avons vécue là tout de suite maintenant? Qu'est-ce qu'elle nous dit? En quoi il faut renouveler notre manière de penser? Eh bien, c'est précisément là. C'est rentrer dans un chemin de confiance. Évidemment, au-delà même de l'effet du retard, etc., mais je trouve que c'est une manière très particulière de vivre comme chrétien, que de dire, vivre au fond selon le temps de Dieu. Vous savez, il y a deux manières de dire le temps en grec. Hein, il y a le chronos c'est la montre, puis il y a le kairos. Le kairos c'est le temps de la grâce. Eh bien, du coup, on renouvelle notre manière de penser en ayant peut-être un autre rapport au temps, en ayant une manière différente d'envisager événements et personnes, en demandant au Seigneur de nous transformer intérieurement et de rentrer dans cette intériorité qui fait qu'on est d'abord à l'écoute du Saint-Esprit qui se manifeste dans les circonstances quotidiennes. J'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui nous dit les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Les circonstances et les nécessités, c'est quoi? C'est les choses qu'on ne choisit pas, les choses qui s'imposent à nous, en termes d'horaire, en termes de santé, en termes de vie professionnelle, de relations amicales, familiales, que sais-je, des choses qui s'imposent à nous. Et le philosophe Pascal dit, voilà nos maîtres spirituels. C'est-à-dire, renouveler sa manière de penser, c'est tirer du quotidien un chemin de vie. Tirer du quotidien une manière de vivre. Et donc, oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout à fait pertinent ce choix d'Agathe et Baptiste à travers cette lettre de l'apôtre Saint Paul. Et Saint Paul continue, il dit, renouvelez donc votre manière de penser et aussi laissez-vous attirer par ce qui est simple. N'ayez pas le goût des grandeurs. J'aime bien voir, vous savez, le mariage, moi qui prépare de nombreux couples par an, comme vraiment l'union de deux pauvres. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres, deux personnes qui, dans une simplicité de cœur, renonçant aux grandeurs de ce monde, à cette manière de ce modèle que propose le monde, la société, renonçant à ça, se présentent comme des pauvres devant le Seigneur. Et c'est important aujourd'hui que Agathe et Baptiste, vous y ayez cette attitude intérieure de vous remettre face au Seigneur comme des personnes qui, d'une certaine manière, demandent, attendent tout de la grâce. Qu'est-ce que c'est que le sacrement de mariage, sinon le salut qui est appliqué au couple? Le sacrement de mariage est très particulier parce que c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux. Donc c'est très particulier. Tous les autres sacrements, que ce soit l'initiation chrétienne ou de la vie du chrétien, ben c'est des sacrements personnels. Mais c'est quelque chose qu'on reçoit à Dieu. Et donc, du coup, forcément, vous vous mettez face au Seigneur comme des pauvres, demandant cette attitude de simplicité, d'humilité l'un envers l'autre. Cette attitude d'accueil de ce que sera votre vie et de ce que sera... de ce que chacun est, avec ses propres limites. Vous demandez que le salut du Christ soit appliqué à votre couple, que le Christ vous sauve. Et de quoi le Christ va-t-il sauver les fiancés dans un sacrement du mariage? Eh bien, il les sauve souvent d'eux-mêmes. Il les sauve comme pour chacun d'entre nous. Chaque sacrement, et l'Eucharistie est un sacrement du salut, comme chaque sacrement, c'est quelque chose qui nous sauve de nous-mêmes, qui nous sauve justement de cette, parfois cette toute-puissance que l'on veut avoir, cette toute-puissance que l'on veut avoir sur le temps, cette toute-puissance que l'on veut avoir sur la manière de faire. Je veux ma manière de faire et non pas j'accepte. Et on voit bien que la vie de couple, vous qui êtes en couple depuis plusieurs années, vous voyez que c'est quelque chose qui demande un travail intérieur. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on se fait l'un à l'autre. Et ça, c'est ce travail intérieur que vous êtes amené à faire qui fait que vous allez travailler sur vous-même et débusquer dans votre vie ce qui peut s'opposer à l'amour, c'est-à-dire ce qui peut s'opposer à cette volonté de toute puissance, de vouloir régenter l'autre, de transformer l'autre à mon image et ressemblance. Et c'est en chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement les fiancés qui sont là concernés. Tous nous sommes concernés par cette volonté de toute puissance qui veut transformer l'autre à mon image et ressemblance. Alors oui, renouveler sa manière de penser, se laisser attirer par ce qui est simple, je trouve que c'est un beau chemin de vie que nous montrent Agathe et Baptiste, pour eux-mêmes d'abord, pour votre vie, et que vous puissiez relire régulièrement dans votre prière personnelle, dans votre vie personnelle, vous puissiez relire régulièrement ce texte de Saint Paul, et ceux d'entre vous qui sont déjà mariés à l'Église, bien aussi que vous puissiez peut-être reprendre les textes que vous avez choisi il y a 5, 10, 20 ou 30 ans et de voir comment ils viennent éclairer votre chemin. parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Or, ce que l'on va demander au Seigneur les uns pour les autres, c'est justement cette manière de faire, cette manière d'être nouvelle. C'est ce que dit saint Paul aussi. Donc, ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne vous fiez pas. Et c'est la grâce d'être à deux. C'est la grâce, moi qui suis religieux, d'être en communauté. C'est à la fois une grâce et à la fois un défi. Parce que du coup, on se laisse éclairer par le discernement de l'autre. Et la difficulté est là, parce que notre orgueil dit non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Ma manière de faire est la bonne. Mais on se laisse éclairer quand on est dans une attitude d'humilité par le discernement de l'autre. On se laisse accueillir. Et vous vous tirez vers le haut, vous, pour pouvoir justement, face au Seigneur, découvrir ce qu'est aimer veut dire. Et j'aime bien cette parole, justement, qui dit aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et que faites-vous en ce moment si ce n'est regarder ensemble dans la même direction? D'où l'importance de la prière et de la prière de couple, qui est difficile, ne nous cachons pas la réalité, qui est difficile, même pour des couples pratiquants, assidus à l'Eucharistie, parce qu'au fond, dans la prière, je ne contrôle pas. Dans la prière, j'accueille la grâce. Dans la prière, je me montre comme un pauvre face à l'autre. Mais c'est de loin l'intimité la plus grande. C'est de loin l'intimité la plus grande. Si vous faites cette expérience, vous qui êtes en couple, faites cette expérience d'une prière ensemble. Je ne vous parle pas de la prière lors des célébrations liturgiques. Non, je vous parle de la prière dans votre maison, face à un coin prière, face à... de vous tourner ensemble vers le Seigneur et d'invoquer sa grâce. Eh bien, ça, je vous dis, vraiment, faites-moi confiance, c'est un lieu vraiment d'intimité extrêmement fort. Certes, l'intimité des corps est une grande intimité, l'intimité des cœurs aussi, mais l'intimité spirituelle est de loin la plus grande des intimités, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est si difficile quand on est en couple, même attaché à sa foi, c'est si difficile de pouvoir le vivre. Ça demande de se laisser transformer intérieurement, de se laisser bousculer, hein, de rendez pas le mal pour le mal, appliquez-vous à agir bien aux yeux de... Voilà, pour autant que possible, voilà, vivez en paix avec chacun. Et la prière, je trouve, ça ouvre à une espérance. Ça ouvre à une espérance dans le sens où le danger de la vie de couple, c'est faire que, d'une certaine manière, ce soit le face-à-face de psychologie blessée, le face-à-face d'ego, où chacun veut avoir raison. Ça peut être, en tout cas, une tentation. Et la prière ouvre à une espérance. Le sacrement ouvre à une espérance, l'espérance du salut. Nous ne sommes pas livrés à nos propres blessures. Nous ne sommes pas livrés à nos propres blessures, à nos manques d'amour, à nos difficultés d'accueil. Nous ne sommes pas livrés à ça. Il y a quelque chose de plus grand. Et vous qui êtes jeunes, et je suis tellement heureux qu'il y ait beaucoup de jeunesse dans cette assemblée, soyez attentifs à garder la vie spirituelle comme un vrai questionnement. Je ne vous connais pas, je ne sais pas encore moins où est-ce que vous en êtes de votre vie spirituelle, de votre vie de foi, mais que ça reste toujours une question. Restez en chemin, et vous aussi, Baptiste et Agathe, restez en chemin, que cette question de la vie de foi, la question de la vie éternelle, la question de la présence de Dieu dans votre couple par le sacrement, reste toujours un lieu où vous allez vous tirer vers le haut. On va demander au Seigneur cette grâce, les uns pour les autres, pour vous évidemment, et que nous puissions être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.